en live la vie de famille en direct du quotidien, garantie sans filtre. Parents, beaux-parents, grands-parents, enfants, ados, racontez-vous. Émission live tous les deuxièmes mercredis du mois à 13h sur News FM. Pour participer, connaître le sujet du mois et écouter les podcasts, rendez-vous sur le site parentslive.fr, rubrique radio, ou bien contactez Florence au 06 76 86 44 43. 06 76 86 44 43. Parentslive.fr, un média fait par les parents, pour les parents. Et bienvenue si vous nous rejoignez 13h sur News FM et comme tous les deuxièmes mercredis du mois, c'est l'émission Parents Live sur les grands thèmes de la parentalité. On vous a donné rendez-vous depuis le mois d'octobre pour cette émission avec Florence pour m'accompagner et Florence en charge du dispositif Parents Live justement. Bonjour Florence.
Salut Greg.
Alors aujourd'hui, la rentrée se passe bien, meilleurs vœux à toi d'ailleurs.
Oui, meilleurs vœux. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent et bonne année à ceux qui sont sur le plateau.
Yes, on a des invités aujourd'hui, mais tu vas nous présenter un peu la thématique de cette nouvelle émission.
Donc on commence l'année avec un sujet délicat, celui de la séparation du couple conjugal et la façon dont les parents peuvent vivre ce changement et la nouvelle organisation qui en découle. Donc on a préparé cette émission avec nos deux invités, qu'on remercie grandement d'être là. Et elles ont retenu trois grands thèmes en fait, autour de cette question. Donc la nouvelle organisation familiale et personnelle qui découle de la séparation, la communication entre les parents, et ensuite le lâcher prise concernant ce qui vit son enfant avec son autre parent. Voilà, et en plus des témoignages des invités en direct, on aura trois interviews qui viendront compléter les échanges au cours de l'émission.
Très bien. On va peut-être commencer par présenter nos invités. Avec nous pour en parler, nous avons Tiziana et Lucie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Alors moi je suis Tiziana, donc je suis une maman d'une petite fille de 8 ans. Donc je suis séparée du papa depuis 6 ans et on est en garde partagée depuis 4 ans.
D'accord, merci Tiziana.
Bonjour, moi c'est Lucie et j'ai une petite fille de 3 ans et je suis séparée depuis 2 ans. Donc ma fille a 9 mois et on est en garde partagée depuis ce moment-là.
D'accord, entendu. Donc pour cette première partie autour de la nouvelle organisation suite à une séparation, on va aborder une petite phase technique, Greg. Ça veut dire qu'on va appeler un papa au téléphone et qui va pouvoir témoigner en direct.
Tout à fait. J'espère que la technique ne va pas nous lâcher. En tout cas, on est là.
Aussi.
On fait ça en direct. Alors je t'en prie, Florence, pendant que j'essaye d'avoir. Je crois que c'est Nourdine au téléphone.
Voilà, Nourdine qui va nous expliquer comment suite à la séparation avec la fille de sa maman, il a...
Allô.
Bonjour Nourdine.
Eh ben ça y est, il est avec nous.
Oh, parfait.
Oh, c'est parfait, la technologie aujourd'hui. Allô?
Exactement, oui,
super.
Allô, bonjour.
Nickel, bonjour Nourdine.
Bonjour, je suis à l'antenne ou pas là?
Non. Tout à fait, on t'entend.
Si, t'es à l'antenne, t'es en direct.
D'accord, eh ben bonjour à toutes les personnes de News FM, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est pour un témoignage, c'est ça?
Oui, un témoignage sur comment tu as vécu ta nouvelle place de père et ton nouveau rôle de père suite à la séparation avec la maman de ta petite fille à l'époque, mais qui est bien grande maintenant, si je me rappelle bien.
Elle a maintenant 13 ans. Et en fait, au début, certes, j'étais père, puisque dès l'accouchement et dès la naissance de Jade, j'étais considéré comme père. Mais c'est bien sûr après la séparation que je suis devenu papa, on va dire. On s'est séparés, ma fille avait 8 mois. Ça a été un peu compliqué, mais en même temps bénéfique. Et au niveau du partage, c'était pour moi très bénéfique cette séparation. Hein. Pas la séparation en elle-même, mais ce que ça a apporté.
D'accord.
Puisque les moments que j'ai vécu avec ma fille, et puis enfin déjà m'occuper du quotidien, comme je disais, les couches, les réveils... les sorties en poussette, le bus en poussette, tout ce qu'une femme peut vivre dans le quotidien, je dirais, beaucoup plus qu'un homme. Et ben ça, j'étais content de le vivre avec ma fille. Et ça a été bénéfique, quoi. Chose que je pense que je n'aurais pas pu partager, où j'aurais certainement trouvé la simplicité de déléguer à la mère. Voilà, donc pour moi, ça a été que bénéfique. C'est là que je me suis considéré comme papa et plus comme père. Enfin, père par rapport aux responsabilités, mais comme papa dans l'échange et dans l'éducation et dans ce qu'il en est au quotidien. J'ai la chance aussi d'avoir une mère, à la mère de ma fille, qui avec laquelle on s'entend super bien. Et je pense qu'on est intelligent. Après, je dis pas que les autres personnes ne sont pas intelligentes, mais
en tout cas, vous êtes en bonne intelligence concernant l'intérêt de votre enfant.
Voilà, on est en bonne intelligence concernant l'éducation de notre fille, et les choses se font pour Jade, quoi. Donc voilà, elle est dans le même sens que moi, et c'est très 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 appréciable jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on peut se rendre des services, on n'est pas obligé de tenir le jour et l'heure à fixe pour laquelle on doit rendre l'enfant le week-end ou le prendre le début du week-end, tout ça. Voilà, toutes les choses se passent bien, et voilà, et on parle de tout, et ma fille est au courant que les parents communiquent beaucoup, chose que on n'aurait peut-être pas communiqué avec elle si on aurait été toujours ensemble ou dans un couple, je sais pas. Pour moi, c'était pas évident de communiquer quand j'étais avec elle, mais c'est beaucoup plus simple, je veux dire, maintenant.
D'accord, donc voilà, il y a une forme de souplesse du fait que vous soyez pas en conflit, et vous avez trouvé un mode de communication efficace sur tout ce qui touche les questions de votre enfant.
Voilà, tout ce qui touche la question de notre enfant, on communique, on prend des décisions à deux, il y a pas, on en parle d'abord à l'enfant, puis on voit avec le parent, non, on en parle déjà ensemble, et puis après on voit avec Jade, et voilà quoi. Et moi-même, maintenant, je suis impliqué par rapport à l'école, je vais sur son site du collège pour voir les notes, voilà. Je pense que si on avait été toujours ensemble, je pense qu'il y en aurait un qui aurait beaucoup plus porté que l'autre, je pense, pour moi. Là, c'est sûr qu'elle l'a beaucoup plus longtemps que moi, c'est-à-dire je l'ai un week-end sur deux, elle l'a pratiquement toutes les semaines, bien sûr. Elle porte beaucoup plus que moi, mais je veux en faire le maximum pour lui en enlever aussi, parce que déjà, c'est déjà pas mal toutes les semaines, enfin voilà. C'est pas évident pour une mère quand on a ce mode de garde, voilà. Et après, j'ai aussi fait la différence entre la mère et la maman, donc c'est très 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 important, ça a été très important pour moi, et voilà quoi.
D'accord.
Voilà, donc je me suis senti papa impliqué après la séparation. Ça peut avoir du bon, malheureusement, je sais pas comment on peut le voir, en tout cas ça peut avoir du bon. Plutôt que rester ensemble avec des conflits réguliers et pour que le gosse en pâtisse alors que l'enfant n'a rien demandé, c'est pas lui qui a demandé à venir sur Terre, hein. C'est les parents, c'est le plaisir des parents c'est les parents qui pensent à eux, hein, c'est pas...
Voilà. C'est leur projet en tout cas, à la base.
Voilà, alors le projet c'est les parents qui veulent un enfant et pas l'enfant qui veut des parents. Donc voilà, c'est à moi de m'en occuper et voilà quoi. Donc moi j'ai du plaisir à m'occuper de ma fille en fait. Voilà, ça m'a enrichi, ça m'a responsabilisé beaucoup plus. Parce que comme je le répète, je pense que si on aurait été encore en couple, je pense que j'aurais trouvé la facilité de déléguer. Voilà.
D'accord, entendu. On aura un autre témoignage de papa qui va aussi un peu dans ce sens. En tout cas, on te remercie de ta disponibilité, et puis ça nous a permis de tester les appels, et cela fonctionne. C'est parfait.
Voilà. Eh ben, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir si je peux rendre service et partager mon expérience pour que ça donne une phrase ou un mot ou un déclic à certains. Il n'y a pas de souci, quoi.
Ben, parent live est là pour ça, et puis on te souhaite bon courage pour ton après-midi de travail.
Eh ben, merci, c'est gentil à vous.
Merci, Nourdine.
Une bonne journée à tout le monde. Merci bien.
Au revoir. Yes, merci. Salut.
Au revoir.
Donc voilà le premier témoignage de Nourdine. Est-ce que Tidiana ou Lucie, vous voulez réagir ou vous voulez attendre d'avoir le témoignage de l'autre papa?
Ben là, on a un beau témoignage où il y a la communication, on en parlera plus tard, qui est quand même la base pour que la séparation se passe bien. Je pense qu'on pourrait écouter le deuxième témoignage pour essayer de rebondir aussi sur cette place que le parent doit prendre ou peut prendre au cours d'une séparation.
D'accord, donc là on va commencer par le premier témoignage de ce papa, et là c'est pas tout à fait sur ce thème-là, mais il parle juste de la, comme disait Nourdine, de la difficulté de prendre la décision, mais qu'au final pour lui c'était la bonne décision, et surtout quand on vient d'une famille unie, en fait quand on est un modèle parental qui est d'une famille unie. Voilà, donc on écoute.
Et donc, évidemment, c'était, ouais, c'était une relation qui était assez difficile. Et du coup, moi, maintenant, je me sens un peu libéré de cette séparation. En fait, je la vis un peu, quelque part, comme une libération par rapport à quelque chose qui était assez pesant. Mais comme j'ai été éduqué dans un respect de la famille, moi-même je viens d'une famille unie, qui est restée unie, qui est encore unie maintenant, avec 3 enfants, tout ça, pour moi c'était important en fait de donner toutes ces chances à la famille. Pour moi c'était pas très pensable en fait de me séparer de ma femme dans la mesure où on avait un enfant. Et donc ouais, je pense que j'ai pas mal insisté sur pas mal de choses pour maintenir en fait un peu cette famille en vie. Et puis donc ça n'a pas très bien fonctionné.
Donc voilà, là il nous explique plusieurs choses. Vous voulez réagir ou pas pour l'instant?
Ben moi, je rejoins un peu ce papa. Effectivement, quand on s'est séparé avec le père de ma fille, ça n'a pas été une séparation nette. C'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours. Et c'était, je pense, que ce qui a fait qu'il n'y a pas eu une séparation nette, c'était ce schéma qu'on avait de par notre passé familial. Et voilà. Et aussi, le fait qu'on a envie, qu'on souhaite pour son enfant, la présence de ses deux parents. Voilà, ce schéma familial bien construit. Il faut parfois du temps pour en venir à se dire qu'on peut faire aussi autrement. Et après, on rejoint un peu le témoignage de Nourdine, c'est-à-dire que quand on est sur des gardes où on est seul avec son enfant, peut-être qu'on essaye d'offrir plus de qualité de temps et de présence. Et voilà, mais ça, il faut parfois du temps pour pouvoir faire ce cheminement-là. On ne l'a pas forcément tout de suite. C'est aussi savoir se décentrer par rapport à tout ça.
On pourra l'évoquer tout à l'heure. Lucie ?
Moi, je rejoins un peu ce que dit Tiziana. C'est ça, c'est pas facile, c'est un peu culpabilisant, c'est difficile de laisser son enfant à moitié. Et on se dit que si on fait un enfant, c'est pas pour le faire tout seul, c'est pour le faire à deux. Et puis, du coup, ce que je pense pour ma fille, c'est qu'en fin de compte, eh ben, elle a son papa et sa maman à 100% à chaque fois qu'on l'a, l'un après l'autre. Et donc ça, c'est le côté positif, en fait.
Très bien. Donc là, ce papa, on va l'écouter de nouveau sur... lui, ça a été sa difficulté à trouver sa place à l'arrivée de son bébé. Et comment, en fait... Suite à cette difficulté-là, il y avait eu une première séparation, mais donc du coup, le couple a quand même perduré suite à cette difficulté-là. Mais voilà, il a beaucoup parlé de la façon dont le couple est ébranlé à l'arrivée notamment du premier enfant.
Nous, par exemple, à mes yeux, on avait une relation relativement déséquilibrée en fait entre la mère, l'enfant et moi. En fait, c'est-à-dire, c'était pas une relation qui s'articulait sur 3 points un peu comme un triangle, on va dire. Donc moi, mon idée, c'était que, ouais, dans une famille, éventuellement, on ait une relation tripartite. Dans le cas où on est un seul enfant, donc il y a 3 éléments dans la famille, on a une relation un peu tripartite qui, voilà, comme l'image d'un triangle isocèle, on va dire, et pour dire, eh ben ouais, chacun a sa place, chacun peut s'exprimer, chacun a sa dose d'affection, d'amour, selon ses besoins évidemment. Mais donc là pour moi, il y avait un déséquilibre avec une espèce de relation en fait entre la mère et l'enfant mâle qui était en fait un peu surpuissante et qui m'a laissé en fait un peu dans une sorte de manque en fait. Voilà, avec voilà. Donc comme me disait un ami il y a longtemps, parce qu'on discutait de ces problèmes, enfin de ces choses là il disait tu connais ta femme. Enfin, ça, il m'en parlait avant la naissance de Noé. Il me disait, tu connais ta femme, mais tu connais pas en fait la mère de tes enfants. Et dans ce sens-là, c'est vrai que la naissance, c'est quelque chose d'incroyablement beau, et c'est aussi une grosse transformation dans la famille, évidemment, mais pour la femme. Et c'est vrai que je pense qu'il y a cette difficulté-là, elle est assez importante dans nos sociétés occidentales à l'heure actuelle. C'est qu'en fait, il y a sûrement, parce que moi j'ai entendu parler dans différents autres témoignages aussi, il y a sûrement en fait un espèce de déséquilibre qui est difficile à attraper et qui est sûrement difficile à vivre pour le père. En tout cas, moi, dans mon cas personnel, j'ai pu le vivre et donc avec un certain nombre de souffrances par rapport à ça.
Donc voilà, c'est un témoignage bien complet, bien qui forcément fait réagir. Il y avait des sourires dans le studio. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? C'est un voilà, il redit bien. Il a fait beaucoup de généralités, mais après il a remis ça sur son cas aussi personnel. Et bien sûr, il parle de lui et on va voilà, il y a aucune généralité à faire sur ce sujet-là. Mais c'est bien là la souffrance d'un papa qui se retrouve en difficulté pour prendre sa place. Au sein de sa famille. Et est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que
nous ça c'était pas ça la problématique qui a fait que finalement après on s'est séparés. C'était à la rigueur essayer de vivre en tant que famille unie tout en cohabitant avec une belle famille très très présente et essayer de reconstruire aussi un nouveau schéma familial, une famille recomposée, parce que le père de ma fille avait un enfant issu d'une autre union, donc c'était essayer de faire vivre tout cela, et c'était plus les interactions entre toutes ces personnes qui a fait qu'à la fin, ça a un peu explosé. Mais je pense que la mère peut parfois avoir effectivement une relation fusionnelle avec le bébé, parce qu'il y a l'allaitement parfois, il y a des choses comme ça, qui font que les pères se sentent mis à l'écart, mais je pense que ça, c'est une discussion que les parents doivent avoir avant et pendant la croissance de l'enfant. Mais on n'est pas, on devient mère, mais on devient père aussi. Et je pense que c'est pour les deux êtres humains, c'est devenir parent et aussi bien en étant ensemble que séparés.
Ouais. Et là, bien que le devenir parent peut devenir du coup conflictuel aussi et créer de la distance en fait entre les parents,
parce que peut-être que quand on alors on prévoit pas toujours d'avoir un enfant hein. Parfois c'est une surprise dans un couple, c'est pas forcément un projet qui était prévu tout de suite. En tout cas moi c'était le cas hein. C'était une surprise, une belle surprise, et en fait les discussions qu'on peut avoir c'est des discussions éducatives, on peut les avoir avant aussi pour voir si on est quand même peut-être sur les mêmes tendances. Et parfois, ce qui fait défaut, c'est que quand on a eu deux éducations différentes, il peut y avoir des conflits sur des situations. Et s'il n'y a pas de communication mise à plat, effectivement, ça peut aller au bord de la crise ou de la non-communication aussi.
Lucie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Par rapport au témoignage, ce que je voudrais ajouter, c'est que oui, la place est difficile à voir quand un enfant arrive, c'est un équilibre à trouver. Je pense que ça c'est évident. Et du coup, si on n'a pas déjà d'emblée des bonnes fondations, forcément, c'est possible que ça s'éclate. Du coup, dans ce sens-là, voilà, c'est là où je le rejoins. Et après, le fait qu'une femme, une femme devienne mère, oui, c'est sûr, en fait. Mais je pense que, oui, un homme devient père aussi, dans le sens où ça renvoie des choses. Quand on a un enfant, un petit être qui grandit et à qui on doit lui apporter énormément de choses dans sa vie, qui est fragile et qui a besoin de nous, ça nous renvoie des choses qui sont tellement profondes que forcément, on change, quoi. Et on... Notre position change sur la vie.
D'accord. Donc pour clôturer le sujet, on va finir avec le dernier témoignage de ce papa qui revient un petit peu sur la façon dont il a pu se sentir un peu incompétent face aux compétences, entre guillemets, qu'il estime lui naturelles de la maman.
Le problème, c'est qu'en fait, c'est totalement déséquilibré quoi, et brutal, en fait. Et en fait, c'est difficile à vivre, d'autant plus qu'en fait, là, moi, sur le cas de ma famille, en fait, on a l'impression d'avoir aucun pouvoir sur l'éducation de l'enfant en bas âge, en fait. Comme si, en fait, on était incompétent et que la mère, elle était compétente par nature. Donc, en fait, ça, c'est aussi des choses qui sont, en fait, complexes à gérer. Après, c'est... moins d'affection, moins d'amour pour le mari, et en fait tout est apporté à l'enfant. Alors peut-être j'exagère un peu, c'est aussi peut-être ma lecture qui est exagérée à ce niveau-là, mais en tout cas là il y a quand même un problème, voilà. Après, moi aussi, je suis d'une nature, on va dire, pas trop stressée, et en fait j'étais étonné aussi de voir les stress et les tensions que la mère se mettait par rapport en fait à l'arrivée de cet enfant, alors que pour moi c'était quelque chose de plutôt magique et de nouveau et d'extraordinaire, donc j'étais plutôt dans un état de bonheur face à ça, au lieu d'être dans un état préoccupé par la santé du bébé, préoccupé par ci, par ça, par plein de choses.
Donc voilà.
Un témoignage très... on sent qu'il s'est senti très seul à la naissance, ce papa.
Voilà, c'est ça. Ça me paraissait important d'aborder aussi ce sujet-là, parce que ça peut être aussi le terreau de difficultés de couple qui commence là, quand le bébé arrive, et j'avais aussi envie d'avoir l'avis de nos invités sur ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ça ?
Non, je rejoins ce qu'il dit, c'est que il s'est senti sûrement très seul, et c'est pas le seul, malheureusement, et je pense que si son témoignage peut permettre à des couples qui ont un jeune bébé ou une naissance à venir d'essayer d'en discuter, de voir comment chacun peut trouver sa place, parce que il y a de la place pour les deux. L'enfant, on le fait à deux, et c'est un projet de vie à deux. Et après, à plusieurs aussi, parce que, voilà. Mais il faut, voilà, c'est la discuter, communiquer, parler de son ressenti en tant que papa, voilà. Après, le stress, la compétence. Alors, les compétences, je ne pense pas que d'un coup de baguette magique, toutes les femmes soient compétentes pour être maman comme ça, et le papa, pas du tout. Parce que je sais pas pour toi, mais Lucie, mais moi, en dessous de 3 ans, je connaissais pas, parce que je savais pas ce que c'était que de s'occuper d'un enfant, changer une couche, tout ça. Et ça a été une découverte à deux avec le papa, qui avait en fait plus d'expérience que moi, puisqu'il avait déjà eu un enfant. Donc c'est pas toujours, on se découvre en fait en tant que parent au jour le jour, et même encore aujourd'hui. Hein.
D'accord. Donc on va passer maintenant à la façon dont, suite à une séparation, on arrive à créer des nouvelles solidarités, une nouvelle organisation. Comment en fait on fait pour de nouveau se sentir une famille, ou en tout cas pour créer quelque chose qui nous corresponde hors du schéma du couple parental. Donc Lucie, tu as une expérience particulière, toi, parce que tu es en colocation avec une autre maman célibataire. Et toi, Tidiana, tu me disais hors antenne que tu avais toujours vécu ou en tout cas essayer de vivre proche de voisins dont justement tu étais proche, et que tu avais toujours créé une espèce de lien avec des personnes autour de toi à partir du moment où tu t'es séparée du papa de ta petite fille. Donc je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer.
Je peux commencer.
Vas-y, merci Lucie.
Oui, moi je suis en colocation depuis une petite année.
Approche ton micro, s'il te plaît.
Et ça s'est décidé parce que je me suis liée d'amitié avec une personne qui avait aussi un enfant en garde partagée. Et du coup, on s'est retrouvés toutes les deux à chercher quelque chose de plus grand, avec plus de chambres que ce qu'on avait déjà. Moi, j'avais un tout petit appart, un tout petit studio. Et on a trouvé l'opportunité, et du coup, on s'est installé en colocation. Et on a recréé une petite famille. En fin de compte, oui, c'est intéressant, parce que rien que pour les repas, je suis plus toute seule avec ma fille. C'est vraiment des échanges différents. On est quatre à table au lieu d'être moi toute seule avec ma fille. Et, ça, c'est une des choses qui change.
Donc vous avez les enfants, une semaine les deux enfants sont là et une semaine les deux enfants sont chez leur père respectif.
Oui, c'est ça. Oui.
D'accord. Et le projet est né comment en fait? Tu parles d'une histoire d'amitié, mais est-ce que vous, voilà, qu'est-ce qui s'est fait que vous avez dit ben là à un moment donné nous on préférerait faire vivre ça à nos enfants et nous aussi vivre avec une autre personne qui soit pas forcément notre conjoint, mais au contraire une colocatrice ou un colocataire?
C'est un peu une question pratique au départ, dans le sens où l'envie d'avoir quelque chose de plus grand, ce qui n'est pas évident financièrement quand on est une maman seule avec son enfant. Pour avoir deux chambres, une chambre, enfin, c'était pas forcément évident. Du coup, on en a parlé comme ça et on s'est dit. Et puis, comme on se voyait de temps en temps, enfin, on se voyait de temps en temps aussi avec les enfants, on s'est dit ça pourrait être intéressant d'être en colocation.
Pour préciser, puis, ils ont un écart d'âge parce que ta petite fille, ouais, a 3 ans et le plus grand, il a.
Il va avoir 12 ans.
C'est ça, il est au collège, ouais.
Oui. Et oui, ils ont un bel écart, donc ça aussi c'est intéressant. C'est pas forcément des âges où ils vont jouer trop, mais en même temps, il y a un grand frère, une petite sœur, enfin, ils savent pas comment se placer, mais c'est intéressant à voir, même pour eux aussi. Et c'est venu comment? C'est venu parce que on a trouvé cette opportunité qui était là. On s'est dit allez, on y va. Et puis c'est intéressant. On partage pas mal de frais. Et puis c'est surtout qu'on se retrouve pas seul quand on n'a plus nos enfants chez nous, quoi. Donc du coup on a toujours quelqu'un qui est là. Ça nous booste et voilà.
D'accord. Donc depuis le mois d'avril et pour l'instant c'est une belle réussite et ça vous convient à toutes les deux.
Oui, pour l'instant oui c'est ouais. Voilà.
D'accord, merci. De ton côté,
alors moi de mon côté c'est venu d'abord tout à fait par hasard. Donc il fallait que je trouve un nouveau logement avec un enfant jeune de 2 ans et du coup ça a été un appartement dans une maison. Et les propriétaires étaient une famille de 3 enfants et qui m'ont tout de suite accueillie en me disant « on va bien s'occuper de toi, tu ne seras pas toute seule », qui m'ont proposé tout de suite de garder mon enfant ou de l'amener à la crèche. Voilà, y a une solidarité qui s'est créée comme ça, naturelle. On ne se connaissait pas du tout, on s'était croisés comme ça, mais on n'était pas du tout amis. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, cette famille avait des enfants un peu plus âgé que ma fille, donc de 6 ans, 8 ans et 10 ans. Et ils l'ont un peu adoptée comme une petite cousine ou une nouvelle petite sœur. Donc effectivement, il lui est arrivé, on faisait quelques repas ensemble, on n'en faisait pas beaucoup dans l'année, mais par contre, tous les matins, elle allait chez eux lorsque je partais travailler pour prendre le petit déjeuner. Le soir, je la récupérais chez eux aussi. Donc, c'était vraiment le quatrième, comme une petite cousine qui était là de temps en temps. Et donc, il y a eu un lien assez intéressant parce que ça permettait de ne pas être tout le temps seule avec mon enfant et de s'ouvrir aussi aux autres. Et puis, elle n'a pas de frères et sœurs, ça permettait aussi de pouvoir jouer au quotidien, d'aller toquer à la porte des voisins, voilà. Et puis, en grandissant, donc je cherchais un autre logement plus grand, puisqu'en fait, pendant 5 ans, je n'ai pas eu, moi, ma propre chambre, donc ça a commencé à devenir petit, puis voilà. Et puis, l'enfant grandit, donc prendre la place, et puis nous aussi, on a envie de penser aussi à soi, parce que parfois, on s'oublie aussi dans ces séparations. On pense beaucoup à l'enfant et puis on s'oublie en tant que femme ou en tant que père, homme aussi, pardon. Et du coup, là par contre, ça a été un choix, c'est-à-dire que j'ai repris en fait un appartement dans une même configuration avec des voisins qui sont des amis en fait. Et il se passe la même chose avec plus de repas parce que on se connaît depuis des années et aussi. Donc on peut s'entraider, c'est-à-dire qu'ils m'aident, mais moi aussi je peux aider aussi, ça c'est aussi gratifiant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est parents seuls qu'on peut pas aussi aider d'autres parents aussi, on peut aussi s'entraider, quoi. C'est pas que vers nous, quoi. C'est aussi important de pouvoir donner aussi aux autres, et voilà.
D'accord, oui, parce que du coup, t'as une forme de disponibilité, on peut imaginer quand les semaines où ta fille n'est pas là, et... En interrogeant les personnes, il y avait un peu de points de vue par rapport à ça, des personnes qui arrivaient à apprécier ce temps libre, ce temps sans son enfant. Et voilà, pour certaines personnes, au contraire, c'est compliqué, ben justement, de, c'est toi qui me disais, Tidiana, hein, d'être, d'être parent à mi-temps, en fait.
Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, on n'a que la moitié du temps. Donc, sur une année, on voit 6 mois son enfant. Et à l'inverse, pour le père aussi. Hein, c'est... Mais c'est quand même un déchirement. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est quand même des petites séparations. C'est-à-dire qu'on va, on va pas voir son enfant pendant une semaine ou 15 jours, et on le trouve, on voit vraiment qu'il a grandi en une semaine, en 15 jours. On voit vraiment la transformation physique avec quelques jours d'absence sur son enfant. Et je pense que c'est pareil pour le papa, hein, c'est pas que pour la maman. Et après, il faut pouvoir aussi vivre avec, c'est-à-dire se accepter que son enfant est ailleurs avec l'autre parent, qu'il est en sécurité, qu'il est affective et autres. Et aussi... peut-être commencer à se dire, ben, on n'est pas que parents, on est aussi donc des hommes et des femmes, et continuer à vivre et à se trouver et à continuer à vivre, et dans le sens à se réaliser, c'est-à-dire que, et montrer à son enfant que tout ne se rapporte pas qu'à un schéma familial, et montrer aussi qu'on peut s'ouvrir à plein d'autres choses, à d'autres activités, à des passions, voilà.
D'accord. Lucie, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça, sur le temps sans son enfant ?
Eh bien oui, en fait, même, j'y pensais, c'est presque même pour oublier que mon enfant, et que je ne la vois pas pendant 6 mois de l'année, on va dire, ou une semaine sur deux. Et puis même pour pendant une semaine, j'essaie de vivre et de grandir moi-même et de faire des choses pour moi, et puis pour pouvoir après lui montrer que c'est d'être une femme forte et épanouie. Et du coup, c'est vachement intéressant d'avoir ce temps-là, en fait. Mmh. Et c'est même de la chance, on peut dire, d'une certaine manière.
Et ben, ça va me permettre de rebondir sur l'autre témoignage. C'est le témoignage d'une maman qui, à l'inverse, a ses filles tout le temps, sauf la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux. Et elle a un vécu complètement différent, justement, de ce que vous avez pu décrire, notamment aussi par rapport à l'isolement, voire même à la mise à l'écart qu'elle a ressentie suite à la séparation avec le papa de ses filles. Donc, on l'écoute.
Oui, donc moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est que je suis restée sur le mode qu'on avait avant la séparation en termes de vacances. Donc, c'était plutôt partir en camping dans un mobil-home en général pour 2 semaines. Donc, j'ai refait ça parce que financièrement, c'était aussi ce qui me correspondait le mieux. Et là, ça a vraiment été pour moi vraiment difficile parce que mes filles, donc elles ont fait leur vie, elles sont arrivées, je pense, au bout de 10 minutes, elles avaient déjà des copines, elles étaient dans les mobil-homes autour, elles allaient à la piscine le matin, l'après-midi, après il y avait aussi des activités au club. Moi, par contre, dans ces 15 jours-là, je dirais que j'ai parlé à aucun adulte, quasiment, les voisins autour de moi, il y a quelques-uns qui m'ont dit bonjour, mais je sais pas, je... Alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement, je suis une maman seule avec 2 filles? J'avais une amie quand même qui m'avait informé, qui m'avait dit « tu verras, on va sûrement pas beaucoup te parler ». Donc effectivement, au bout de 15 jours, je lui ai confirmé. Ben, je confirme, personne ne m'a parlé. donc j'ai beaucoup lu, j'avais pris beaucoup de livres, mais je les ai tous lus. J'ai appelé quand même quelques amis au téléphone. En plus, on avait un très très mauvais réseau. On était dans... Je pense que c'était... J'avais pas Internet non plus. Donc ça a quand même été un peu pas 15 jours de... Je dirais pas 15 jours de punition, mais pour moi, ça a vraiment, vraiment été quelque chose de difficile. Et je sais que pour les prochaines vacances scolaires, j'aimerais pouvoir faire autre chose. Enfin, les vacances d'été, surtout. Après, j'avais fait mes autres vacances en février, où là, j'étais partie, mais on a visité une ville. Donc, puis c'était sur 4-5 jours, donc j'ai pas ressenti ça parce que j'ai fait vraiment des choses avec mes filles, alors que dans l'esprit camping, elles ont tout aujourd'hui pour... vu qu'elles ont 7 ans et 9 ans, elles ont tout ce qu'il faut pour s'occuper, se faire des copines, voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile. Donc même le soir, les soirées camping, bon, je commandais mon verre au bar, mais toute seule, quoi. Donc ça, c'était quand même vraiment difficile. Et puis effectivement, j'ai vu que des familles autour de moi, donc je dirais que je sais même pas s'il y avait des mamans solo ou des papas solo avec leurs enfants, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'en voir. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve difficile, ne serait-ce que même pour faire des activités aussi le week-end avec mes filles, en fait. Comment on fait pour rencontrer d'autres mamans avec des enfants ou des papas, mais sans parler de rencontres, de sites de rencontres. C'est plus vraiment faire des activités, se rencontrer. Ou même, en fait, ce que j'aimerais bien, et j'avais essayé un petit peu de chercher, mais j'ai rien trouvé, c'est se dire, bah, y a un soir, je voudrais aller au cinéma, je connais quelqu'un qui a des enfants, je peux lui laisser mes filles, ou on peut effectivement, avec deux mamans, sortir, et puis il y a une troisième qui garde les enfants, enfin, ce genre de choses, en fait. Et ça, je trouve que ça me manque, en fait, ça manque beaucoup, le fait de plus pouvoir parler, échanger, faire des activités. C'est pas simple. Moi, j'arrive à faire des activités avec mes filles. Je cherche toujours des choses à faire. J'organise pas mal de choses. Mais je trouve que ce serait bien, en fait, de pouvoir le faire et de partager. En fait, c'est l'idée du partage. Aussi bien pour moi, de pouvoir échanger sur des problématiques qu'on peut rencontrer. Et puis aussi pour mes filles, en fait. Même si elles peuvent faire des soirées chez certaines de leurs copines qu'elles ont par le biais de l'école ou autre. Mais ce que je ne retrouve pas, effectivement, c'est ça, puisque je dirais qu'il y a aussi le fait que les personnes, les couples avec lesquels qui ont des enfants et avec lesquels on avait l'habitude de se voir le week-end, de manger les uns chez les autres, ça s'est aussi arrêté pour moi. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui je suis une maman, je suis toute seule et je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça s'est aussi arrêté, en fait. Donc le week-end, on se retrouve, voilà, donc on se fait nos petites soirées toutes les trois. J'essaie toujours d'organiser des choses sympas, mais ça manque, en fait, ça manque beaucoup. Voilà.
Donc on entend le témoignage de ces mamans qui est quand même radicalement différent de ce que vous avez pu évoquer toutes les deux. Et son appel, justement, pour comment on fait pour rencontrer d'autres familles, d'autres mamans solo, d'autres papas solo, pour partager des moments entre adultes et entre enfants. Donc, si des auditeurs ont des trucs, des astuces ou des contacts par rapport à ça, n'hésitez pas à contacter Parents Live. Nous, ça nous intéresse aussi de pouvoir donner des ressources à ce niveau-là aux gens qui regardent le site. Et puis, on voit aussi, comme à un moment donné, la séparation, on peut se sentir aussi un peu mis à l'écart, quoi, quand elle explique qu'elle n'a plus les mêmes contacts avec les gens à partir du moment où elle est séparée. Est-ce que vous voulez réagir à ça, Lucie ou Tiziana ? Puis ensuite, on fera une petite pause musicale. Pas plus que...
Pas plus.
Non, mais pas plus, parce qu'effectivement, ces deux, c'est... Voilà, nous, on a eu de la chance, je pense, d'être bien entourés, des rencontres. Moi, pour les vacances, si, je suis partie la première fois toute seule en camping avec ma fille, avec une tante familiale à monter à deux. Je me suis fait aider par une grande famille italienne, et puis la mamie nous a un peu adoptés pendant 3 semaines. Donc, c'est des rencontres comme ça, c'est par hasard, c'est discuter. Mais par contre, on peut se sentir seule, effectivement. Quand on est seul avec son enfant, parfois on peut faire peur. J'ai une amie qui m'a dit, depuis que je suis séparée, effectivement, je suis plus invitée, quoi, par mes anciens amis, parce que je suis, je fais peur ou je suis seule, je sais pas, voilà.
Chose qui arrive des fois même sans avoir d'enfant dans des séparations où en fait ça sépare un peu les groupes d'amis, puis finalement t'en as qui t'appellent moins ou des trucs comme ça. Donc ouais, déjà ça arrive sans enfant, donc j'imagine. Avec les enfants, c'est la même chose, quoi. Sauf que le ressenti doit pas être évident. Quand j'entends son témoignage, moi, ça me...
Ça fait un peu froid dans le dos,
ça ouais. Ça fait... Ouais, bien sûr, un peu quand même.
Mais par contre, moi, parce que j'avais un peu regardé, justement, pour partir en vacances, tout ça, et il y a des sites qui sont pas du tout des sites de rencontres, qui mettent en relation des parents qui sont demandeurs pour partager un mobile home, pour partager des vacances, des choses comme ça. Ça existe.
Hein, d'accord. Encore. Donc on cherchera ou tu saurais dire les.
Je crois
lesquelles.
Justement, je crois que c'est parents solo. Je sais pas si ça existe encore. Parce d'accord. Que, du coup, moi, je me suis plus tournée là-dessus, mais j'avais vu, voyez, des choses comme ça.
D'accord.
Et on vient d'envisager aussi les colocations où il y avait des demandes comme ça. Il y a beaucoup de parents effectivement qui sont demandeurs de ce genre d'échange en fait.
Ok, bon bah merci pour toutes vos réactions, pour toute cette première partie déjà bien bien complète. On va faire une petite pause et puis on se retrouve ensuite.
Exactement, une petite pause avec une chanson choisie par Lucie, on peut le dire d'ailleurs. Parce que tu l'aimes bien ou il y a une raison particulière?
Ouais, il y a un peu des deux.
Ah ouais. D'accord.
Mais je l'aime beaucoup.
Ok, ouais. C'est Isia Higelin et le titre c'est Back in Town. On écoute ça et on revient juste après pour Parents Live numéro 4.
I'll be back in time.
On est de retour dans cette émission par en live, donc consacrée ce mois-ci, à la séparation. Voilà comment engager après d'autres choses dans cette vie de parents séparés, Florence.
Voilà. Donc, je remets le micro en face.
Tout à
donc,
fait.
Sur cette deuxième partie, on va aborder la question de la communication ou de l'absence de communication ou de la difficulté à communiquer avec l'autre parent au moment de la séparation et puis après, quand les enfants grandissent. Et on commence par écouter le témoignage d'une maman qui, elle, voilà, nous parle justement de la quasi-absence de communication avec le père de ses enfants et comment elle ne peut pas échanger sur les sujets importants qui concernent ses enfants, en fait, et que du coup, elle se sent seule.
Donc moi, en fait, le déclic, ça a été effectivement de voir si est-ce qu'on était heureux au bout de... 15, un peu plus de 15 ans en couple, la réponse s'avérait plutôt négative. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit que j'étais pas heureuse, pas suffisamment. Donc je me suis dit, c'est maintenant, en fait, si tu dois partir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Même si j'avais mes filles, évidemment, mais comme je dis, moi, je donne un peu l'image de l'oiseau dans la cage, on ouvre la porte et là il se dit si je veux partir et m'envoler, c'est maintenant. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je dirais pas que c'était sur un coup de tête, parce que je pense que quelque part dans ma tête, c'était déjà prêt, sûrement depuis un petit moment. Je pense qu'il n'était pas le cas pour le papa de mes filles, donc lui, ça a été c'était vraiment il s'y attendait pas, et donc c'était une grande surprise pour lui. Donc au début, il y avait pas mal de communication, on va dire les 6 premiers mois à peu près, enfin 4-5 premiers mois. Et puis après, suite à différents événements, on est rentré aujourd'hui dans la non-communication. Donc il y a vraiment plus d'échanges parlés. Donc tout se fait par mail ou par texto. Donc ça, c'est vraiment difficile, parce qu'il y a des... parfois, il y a des choses qui demandent à ce qu'on puisse vraiment... Il faudrait en parler, notamment l'éducation des filles, le parcours scolaire. J'ai ma grande qui est 10, donc avec un parcours médical pour lequel je me bats toute seule, en fait. C'est moi, d'ailleurs, qui me suis rendu compte depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et même quand j'étais encore en couple, c'est moi qui fais les démarches pour savoir ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, en fait, je continue ces démarches toute seule. Alors, leur papa, par contre, ne s'oppose pas à quoi que ce soit, en fait, dans le suivi, dans tout ce que je propose. Ça se fait, on le met en place. Mais il n'y a pas d'échange là-dessus. Et donc, je trouve que c'est vraiment difficile. Parce que je dirais qu'effectivement, c'est toujours moi qui suis sur le devant de la scène, l'actrice principale. Et des fois, on aimerait bien simplement être juste un peu, être figurante. Donc je me bats, j'ai l'impression de me battre un peu tout le temps. Et ça, c'est pas facile. Je sais pas si je peux dire que parfois un peu je subis la situation. Donc des fois c'est lourd, des fois je pense qu'on craque, moi je craque, je pleure, ça m'arrive parce que j'en peux plus, en fait. Mais bon, c'est vrai que mes filles me redonnent toujours l'énergie pour y aller, et je me dis de toute façon aujourd'hui c'est ma priorité, c'est tout ce qui compte, en fait. Mais je sais que on n'est pas forcément d'accord avec leur papa sur pas mal de choses, mais comme il n'y a plus du tout de dialogue, je prends les décisions, en fait, qui me semblent être les meilleures et les plus pertinentes pour elles.
Donc voilà ce témoignage qui parle de la communication, mais qui parle aussi de la difficulté à être seule la plupart du temps, à devoir gérer le quotidien avec ses enfants. Par rapport à la communication, Lucie, Tiziana, est-ce que vous avez quelque chose à transmettre? Dans le sens, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait eu des évolutions? Est-ce que c'était plus compliqué au départ et puis ça a été plus fluide après? Ou au contraire, comme cette maman, ça a bien démarré et puis après, il y a quelque chose qui fait que ça casse? Qu'est-ce que vous avez comme expérience à transmettre?
Alors moi, au départ, il n'y avait pas du tout de communication, voilà, parce que quand on se sépare, parfois, c'est qu'on n'arrive plus du tout à communiquer avec l'autre, et du coup, on n'arrive pas tout de suite à le faire pour son enfant. Et c'est venu progressivement, c'est-à-dire que effectivement, nous, on a commencé tout de suite par des textos, des choses comme ça, pour gérer des choses autour de l'enfant. Et quand on a basculé vers une garde partagée, on a continué à échanger des textos, mais on n'était pas sur les problèmes de fond. Et finalement, un des premiers déclics, c'est quand la maîtresse d'école nous a écrit un mot, et on s'est retrouvés tous les deux à l'école, et sans se parler, naturellement, on est allés tous les deux dans le même sens, et notre enfant a entendu son papa, sa maman, avoir le même discours, et on sentait que ça avait de l'importance pour elle que ses deux parents, d'accord, n'étaient pas d'accord sur plein de sujets autour, parce que l'enfant n'est quand même pas... prend conscience quand même quand les parents n'échangent pas, il voit très bien qu'il y a des conflits, que papa et maman ne sont pas d'accord, il entend des choses, mais là, l'enfant la voit que même s'il y a des désaccords, pour lui, pour elle, donc là pour ma fille, papa et maman vont dans le même sens. Et à chaque fois qu'on est allé dans le même sens, on a vu qu'il y avait un effet positif sur notre enfant, c'est-à-dire qu'elle réagissait positivement aux conseils qu'on lui donnait. Et voilà. Ensuite, le deuxième déclic, c'est quand j'ai vu que finalement, dans des couples qui étaient autour de moi, il y avait les mêmes problématiques de communication ou d'oubli. Par exemple, le papa a oublié de mettre le goûter à son enfant, et pourtant, ils vivent bien ensemble, et c'est un oubli. Et donc, ça a commencé, moi, à accepter aussi que l'autre peut oublier, c'est pas grave, on lui rappelle, un petit message, tout ça. Et j'ai commencé donc à recentrer cette communication-là, sans me mettre en colère pour pas grand-chose, et accepter que il peut y avoir des oublis, on peut aider l'autre aussi à penser, même si on est séparés, à des choses qui nous paraissent essentielles. Parce que même en étant ensemble, parfois, il y en a un qui va prendre plus de décisions, amener peut-être plus souvent l'enfant chez le médecin. Et il faut pouvoir accepter que finalement, cette situation-là, même en étant séparés, c'est pas parce que c'est pas lié à la séparation, en fait, que quelqu'un prenne peut-être plus pas de responsabilité, parce qu'elle est quand même partagée, cette responsabilité, peut-être plus d'initiative ou va au-devant des choses. Mais il faut bien que quelqu'un prenne le téléphone et appelle l'orthophoniste, et voilà, quoi. Donc il faut pouvoir accepter et continuer, quoi.
Et ça, c'est bien vécu de la part du papa de ta fille, le fait que tu la rappelles, que tu te soucies de ce qui se passe la semaine où elle est chez lui.
Oui, parce que souvent, maintenant, c'est vrai que parfois, je prends les devants, j'envoie un petit message, mais c'est pas des messages tous les jours, hein, c'est vraiment pour l'essentiel. Même pour des anniversaires, je me suis rendu compte que si je le faisais pas, il oubliait vraiment, et il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas... Et donc, il faut pouvoir accepter ça et se dire que c'est pas grave, quoi. Et on y va quand même, c'est parce que c'est pour le bien de son enfant. Voilà, parce que ça me ferait de la peine, et je pense même au papa, qu'elle n'aille pas à un anniversaire alors qu'elle était invitée, tout simplement. Donc,
D'accord. Et Lucie, toi, par rapport à la communication avec le papa de ta fille?
Moi, elle n'est pas forcément évidente, elle est cordiale, je dirais. Mais moi, ce que je voudrais soulever plutôt là-dessus, c'est que la communication est évidemment hyper importante entre le papa et la maman, dans le sens où c'est pour l'enfant, en fait, parce que, comme tu dis, Titiana, si le papa et la maman ils sont d'accord sur la même chose, l'enfant, il dit « ok ». Il est rassuré. Par rapport au malaise qu'elle a, cette jeune femme, sur son témoignage, c'est que je pense qu'on n'a pas... Moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut trouver un peu d'aide pour justement mettre en place cette communication qui est hyper importante pour l'enfant, et hyper importante personnellement, mais surtout pour l'enfant. Et je ne sais pas vraiment vers où, qui me tourner aujourd'hui pour avoir cette aide-là. À part peut-être des médiateurs, mais qui ne sont pas forcément formés en psychologie pour l'enfant, en psychologie pour l'adulte non plus. Voilà, et donc c'est quelque chose que je voulais souligner, parce que oui, la communication est hyper importante pour le développement de l'enfant.
Ouais, parce que les médiations, on peut dire que c'est plutôt un moment pour résoudre un conflit. Toi, vraiment, l'idée là, c'est plutôt apprendre à communiquer en étant un couple séparé. Comment faire vivre son couple parental au-delà de la séparation conjugale.
C'est ça.
Et quelle communication de qualité on peut avoir et qui peut nous aider à mettre ça en place pour notre enfant.
Oui,
parce que vous, toutes les deux, vous soulignez que c'est vraiment ça, un point important qui fait que l'enfant gagne en sérénité, en sécurité et aussi rassuré.
Pour moi, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que quand on parle comme ça, ça a l'air facile, mais parce qu'il y a plein de choses qui vont nous lier à l'autre. Il y a les questions financières où on ne va pas être d'accord, ou d'autres choses encore, sur les activités, je ne sais pas. Et en fait, ce n'est pas forcément simple. Mais on ne peut pas communiquer sur tout, de tout, avec l'autre, forcément. Et il y a des familles qui sont séparées, qui communiquent par avocat interposé ou des choses comme ça. Donc là, nous, on est sur quelque chose d'assez positif, malgré tout, même si c'est des petits textos, des choses comme ça. Mais parfois, l'enfant, il est otage de ce désaccord des parents. Et pour aller vers le mieux, c'est pouvoir lâcher prise sur certaines choses, se dire, ben ça, je verrai ça plus tard, tant pis. Mais pour mon enfant, peut-être qu'il faut que j'accepte d'ouvrir quelques portes à l'autre.
Ouais. Là, on va transitionner vers la troisième partie, qui est l'histoire du lâcher prise, d'accepter, de tolérer aussi des façons de faire différentes quand notre enfant est pas avec nous. Mais juste pour clore cette histoire de la communication, il y avait un témoignage du papa qu'on a écouté tout à l'heure, et qui lui vantait aussi les mérites de la communication donc au sein du couple, mais aussi avec son entourage dans les périodes de séparation, justement pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous arrive. Donc on va l'écouter.
Je pense que 10 cerveaux valent mieux qu'un cerveau, et donc quand je suis tout seul dans ma tête, je tourne en rond, et quand je discute avec d'autres personnes, il y a des idées auxquelles j'ai pas pensé qui font que ma réalité elle change. Alors je donne un exemple tout simple, c'est quoi? C'est mon ami pareil qui s'était séparé, il m'explique. Je lui dis, ouais, mais moi, là, je suis avec, ça fait 15 ans, on a un enfant de 8-9 ans, c'est l'échec, quoi, on se sépare, c'est l'échec. Donc, discours de base. Il me dit, ouais, mais en fait, non, c'est pas l'échec, c'est vous êtes aimé avec une femme, vous avez eu le courage d'avoir un enfant avec elle, vous êtes lancé dans cette aventure, vous vous êtes donné les moyens, vos petits moyens pour y arriver, vous avez donné votre cœur pour ça, et bah bravo, c'est bien, vous avez fait ce chemin-là pendant 16 ans, et en fait maintenant vous n'y arrivez plus, mais c'est bien, vous avez essayé, il y en a qui n'essayent pas, il y en a qui restent enfermés sur eux, bon, pour d'autres raisons, on leur jette pas la pierre, mais en fait c'est une manière, c'est toujours, on en revient à ce spectre de dire comment on regarde la réalité, et est-ce qu'une séparation elle peut être vue d'une manière positive, dans ce cas-là, derrière, la vie des séparés peut recontinuer à croître. Par contre, si ta séparation c'est un échec, et évidemment derrière tu vas ramer. Et ça c'est juste une question de point de vue. Et et donc c'est en discutant avec d'autres personnes qu'on peut avoir ce genre de d'idées nouvelles, d'autres idées et d'autres points de vue sur ce qui se passe. Voilà. Donc là-dessus, moi, ça, c'est par exemple quelque chose qui m'a...
Suspense.
La suite au prochain épisode. Bon, donc troisième partie, apprendre à lâcher prise, accepter, tolérer ce qui se passe avec l'autre parent pour son enfant. Donc, Lucie et Tidiana... avec nous pour aborder cette dernière partie de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, s'il n'y a rien, on peut lancer le témoignage de... est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça?
Non, on en revenait à ce que je te disais tout à l'heure.
Ouais, cette question a déjà traversé pas mal les échanges, en fait.
C'est-à-dire que par moment, il y a des sujets qui fâchent et peut-être qu'il ne faut pas s'en saisir totalement et aller sur d'autres terrains pour le mieux être de son enfant. Et puis aussi, finalement, en lâchant prise, on va mieux aussi. On est plus ouvert à plein d'autres choses. Hein.
Et vous, qu'est-ce qui vous a permis de lâcher prise, là, du coup, dans votre quotidien de maman? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais en fait, voilà, avoir ce contrôle-là, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui fait est-ce que c'est de voir les conséquences sur son enfant, ou c'est, comme tu dis, quelque chose à l'intérieur de soi qui est tout le temps énervé, alors on dit, bon, bah, c'est bon, on arrête. Qu'est-ce qui fait avancer? Qu'est-ce qui permet d'avancer?
Bah, accepter que l'autre parent et s'occupe aussi bien d'une autre façon de son enfant. On est tous différents. Et tant qu'il y a la sécurité affective, ça peut être rassurant. Après, effectivement, ça, c'est dans certains schémas familiales. On a tous des contextes différents. On pourrait ne pas être rassuré que son enfant soit avec l'autre pour des raisons de parcours de vie. Voilà, chaque parcours de vie est différent. Donc,
Tout à fait. Et toi, Lucie, est-ce que ce lâcher-prise, ça te parle? Est-ce que tu arrives à le vivre au quotidien? Est-ce que t'espérerais le vivre, mais tu n'y arrives pas encore? Ou est-ce que ça te parle pas plus que ça?
C'est pas évident, parce que moi, j'ai toujours eu plus confiance au papa qu'en moi,
d'accord,
en tant que maman. Mais du coup, le lâcher-prise, si quand même, il est présent, parce qu'il faut se dire qu'il faut avancer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux montrer à ma fille que je suis une maman, que je suis épanouie, que je vais bien et que je suis heureuse. Et c'est comme ça qu'elle apprendra les belles choses de la vie. Et c'est comme ça qu'on avancera, quoi. Moi, pour moi, c'est comme dans ce sens-là où on va avancer, où je vais avancer avec ma fille.
D'accord. Ouais. Et toi, tu dis que tu avais plus confiance en son papa dans la fonction parentale, que c'est plus à...
Ouais, parce que je dois avoir tendance à beaucoup manquer de confiance en moi, et j'ai été assez déstabilisée. Et je sais tout simplement que... Enfin, je sais, j'imagine, enfin, je m'en rends compte quand même, qu'elle est très bien avec son papa aussi, donc du coup, la confiance est là, et... oui, j'aimerais savoir beaucoup de choses, mais voilà, je fais tout simplement confiance, et puis voilà.
D'accord.
Je pense que ça, c'est ce qui m'aide.
Et vous avez toutes les deux parlé du fait que avoir votre enfant en garde alternée, ça vous permet d'avoir du temps pour vous, pour vous ressourcer, pour recharger les batteries. Et de nouveau, on va entendre cette maman qui aimerait pouvoir vivre ça, mais qui, du coup, pour l'instant, en tout cas, n'a pas trouvé de solution pour prendre du temps pour elle.
Je suis sur un mode de garde, enfin à 100%, c'est-à-dire un week-end, enfin je les ai tout le temps, et leur papa les prend un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Donc moi, je cache pas que quand je les ai pas, ben en fait c'est un moyen de respirer, de reprendre de l'énergie pour quand je les ai... les deux semaines qui suivent, où j'enchaîne avec le week-end au milieu. Donc ces week-ends-là, en général, je fais pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais tu fais rien ». Ben, je leur dis non, parce qu'en fait, j'arrête pas, et je cours tout le temps, voilà, pour m'occuper d'elles quand je les ai... puisque entre les activités, voilà, suivre ma fille qui est 10, enfin, donc vraiment, quand je les ai pas, en fait, je me pose, je fais rien, c'est très bien. Et le week-end passe quand même très vite et trop vite, des fois. Donc les avoir, oui, je m'opposerai pas, en fait, c'est la situation de leur papa qui fait que pour l'instant, on peut pas être en garde alternée, mais je m'opposerai pas à ça, même si, oui, je pense que ce serait pas tout le temps facile, parce que là, sur les dernières vacances où je les ai pas eues une semaine, il me tarde de les récupérer. Je pense que c'est un temps où effectivement on peut recharger les batteries, souffler et se préparer pour être au mieux, en tout cas pour la semaine qui vient, et les récupérer. Essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire aussi comme activité dans le week-end. Même quand je les ai, on essaie aussi un peu de souffler, de ne pas toujours courir. Alors elles n'ont pas toujours l'impression de courir, sauf quand, je les emmène le matin et à l'école où il faut se dépêcher, mais sinon elles ont toujours envie de faire des choses. Mais ça, oui, je trouve que c'est pour moi c'est assez difficile en fait. Donc je serais pas contre ce mode de garde.
Donc quand elle parle de ce mode de garde, c'est la garde alternée. Mmh. Voilà. Bon, et ben l'émission touche doucement à sa fin. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de parents qui sont voilà, engagés et investis auprès de leurs enfants, même si ce n'est pas tous les jours. Et puis, en tout cas, je remercie les invités d'avoir été présents, les gens qui ont témoigné aussi lors des interviews. Moi, j'ai juste dire un petit mot autour des ressources qu'on peut trouver quand on est parents séparés. Donc, pour accompagner les familles, il y a le site de la CAF, monenfant.fr, qui recense toutes les aides, aussi bien humaines et financières, dont on peut bénéficier quand on déclare une séparation à la CAF. Donc on peut s'appuyer sur un guide pratique qu'ils ont édité qui s'appelle la coparentalité réussie, couple séparé, parents associés. Il y a également les assistants sociaux de la CAF ou les assistants sociaux de secteur qui peuvent recevoir et orienter les parents dans les démarches administratives et l'ouverture des droits. Parce qu'une séparation, c'est aussi des papiers, c'est aussi une situation qui change et c'est parfois lourd et compliqué. Il y a également les services de médiation familiale dont on a un peu parlé qui sont là pour aider à dépasser certaines situations problématiques. Et on a bien entendu aussi suite à la situation de la maman qu'on a entendu en témoignage, qui est la recherche de lieux, de personnes, de structures qui peuvent mettre en contact des parents solos, aussi bien des mamans que des papas. Donc si vous avez entendu parler, si vous avez expérimenté ce genre de choses, n'hésitez pas à nous contacter sur parentlive.fr, aussi bien pour des week-ends, des vacances que pour des babysitting de soirée. On va se quitter en écoutant juste le témoignage d'un petit garçon. On n'a pas entendu les enfants sur cette émission, mais ce sera pour les prochaines fois parce que dans Parents en Live, c'est aussi bien les parents que les enfants et la famille au complet. Voilà, donc on l'écoute.
Bah avant, je trouvais que c'était triste, mais maintenant, je trouve que c'est plus du tout triste.
Pourquoi ?
Parce que j'ai eu l'habitude qu'ils soient séparés.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu trouves plus triste aujourd'hui ?
Rien. Bah, je sais pas, c'est un petit peu moins bien, mais... Et c'est déjà bien.
C'est quoi qui est un petit peu moins bien ?
Bah, parce que... Je suis obligée de faire une semaine chez maman, une semaine chez papa. Et qu'une semaine, je suis obligée de pas voir papa, une semaine, je suis obligée de pas voir maman.
Et qu'est-ce que tu trouves mieux ? C'est une chose que tu trouves mieux.
Que papa, il a trouvé Audrey. J'ai deux chats, un patapouf et une qui joue beaucoup et elle fait plein de bêtises.
Voilà, donc on termine sur une note... mignonne et positive, et on remercie ce petit garçon, puis on remercie aussi ses parents parce que on a l'impression que ça se passe bien. Donc
ben oui, écoute Florence, c'est la fin de l'émission du coup.
Ouais,
on se retrouve les vidéos, les podcasts de l'émission, on peut les retrouver sur votre site et sur le nôtre. Alors ouais. Le site c'est parentlive.fr, la rubrique c'est Radio Live. C'est bien ça.
C'est tout à fait ça.
Et puis vous retrouvez aussi notre sur notre site de News FM, vous retrouvez dans la rubrique podcast, vous retrouverez le thème Parents Live, voilà, avec toutes les émissions depuis le mois d'octobre.
Donc le podcast et la vidéo de cette émission seraient disponibles d'ici une semaine.
Exactement. Voilà. Sur les deux sites, et on se retrouve pour une prochaine émission, ce sera le 12 février, Florence.
Voilà, sur le thème, ce sera les situations de handicap dans la famille au quotidien. Donc, si vous souhaitez témoigner, si vous connaissez des personnes dont le sujet pourrait leur parler, n'hésitez pas à leur transmettre l'information et on vous retrouve dans un mois. Merci à tous.
Merci à tous pour cette émission. Merci à nos invités. Le retour du son sur News FM. Mettez-vous bien.